tout à l'heure, Caroline. Vous écoutez RFI, il est 10h à Paris, 9h temps universel. Le journal Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Chantal, bonjour à toutes et à tous. À la une, l'ouverture à Paris dans une demi-heure du procès des geôliers de Daesh en Syrie, où quand les otages du groupe État islamique retrouvent leurs bourreaux, 5 djihadistes sont accusés d'avoir notamment retenu en otage 4 journalistes français. Nous reviendrons également dans cette édition sur la prise de Bukavu en RDC par les rebelles du M23. Kinshasa dénonce l'occupation de la capitale provinciale du Sud Kivu, témoigne rare d'un habitant de Bukavu dans quelques instants. La Suède n'exclut pas l'envoi de soldats de maintien de la paix en Ukraine. Stockholm emboîte le pas à Londres qui faisait une déclaration similaire hier. Aujourd'hui, une dizaine de dirigeants européens sont réunis à Paris pour échanger sur le dossier ukrainien. Les tortionnaires du groupe État islamique en Syrie jugés aujourd'hui en France. Le procès de 5 djihadistes de Daesh doit s'ouvrir dans une demi-heure à Paris devant une cour d'assises spéciale composée de magistrats professionnels. 12 ans après leur brutale captivité, Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, ex-otages en Syrie, ils feront face à 3 de leurs bourreaux et parmi eux, Nedi Nemouche, déjà condamné en 2019, c'était en Belgique à la suite des attentats du musée juif de Bruxelles. Jeanne Sulzer est l'une des avocates du journaliste Nicolas Hénin, donc ex-otage en Syrie.
Ce qui est certain, c'est que c'est un procès qui va être extrêmement intense psychologiquement et émotionnellement pour les victimes et pour les familles de victimes. D'avoir ce moment de possibilité d'expliquer, de décrire ce qu'ils ont vécu, des conditions absolument effroyables, des allégations de torture, des traitements extrêmement difficiles dans une salle d'audience face à des personnes dont ils ont reconnu qu'ils étaient leurs geôliers dans ce vase clos. Donc Nicolas Hénin lui-même ne sait pas nécessairement comment il réagira aux différents moments de ce procès qui va durer quand même 5 semaines. Donc émotionnellement, psychologiquement, ça va être un procès très chargé. Pour nous, pour Nicolas Hénin qui est notre client, l'essentiel c'est la dignité. C'est d'avoir un procès qui soit vraiment ancré dans un état de droit, évidemment, mais qui reste aussi digne dans son oralité. L'idée n'est pas la vengeance, l'idée est de remettre les responsabilités là où elles doivent être et que les choses puissent être dites en confiance et de façon aussi sereine que possible.
Maître Sulzer au micro RFI de Laura Martel. Marco Rubio est arrivé en Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État américain doit rencontrer à Riyad les dirigeants saoudiens avant de se rendre aux Émirats Arabes Unis à l'occasion de sa première tournée au Moyen-Orient. Hier, Marco Rubio était à Jérusalem, en Israël, pour apporter son soutien à Benjamin Netanyahou. Les deux hommes se sont montrés notamment offensifs face au Hamas, leur ennemi commun. Le premier ministre israélien allant jusqu'à menacer d'ouvrir les portes de l'enfer à Gaza si tous les otages n'étaient pas libérés. Benjamin Netanyahou, qui a par ailleurs appelé son pays à, je cite, « finir le travail contre l'Iran ». La diplomatie iranienne dénonce des menaces qui constituent une violation du droit international. L'Iran, qui sera représenté à un haut niveau aux funérailles d'Hassan Nasrallah au Liban. Les obsèques de l'ancien chef du Hezbollah auront lieu le 23 février prochain. Hassan Nasrallah avait été assassiné fin septembre dernier dans un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth au Liban. La ville de Bukavu, désormais sous contrôle des rebelles du M23, appuyée par le Rwanda. Des colonnes de soldats ont été observées hier matin, approchant le chef-lieu de la province du Sud Kivu en RDC. Une occupation qui a été confirmée et dénoncée par Kinshasa. Si désormais le calme semble être revenu, les scènes de pillage hier avaient été accompagnées aussi de discours, des prises de parole du M23 pour tenter de rassurer les habitants et de les rallier à leur cause. Écoutez le récit de ce commerçant qui préfère rester anonyme pour des raisons de sécurité.
Effectivement, j'ai fait un tour et on a aperçu les militaires, les rebelles. Ils sont arrivés avec leur commandant, leur chef, le colonel Bernard Diamond. Et il nous a parlé, et j'ai une vidéo là. Il a dit ils sont venus nous libérer contre la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi. Et aussi, il nous a prodigué des conseils de ne pas piller nos voisins, les boutiques des amis. Et puis, il a commencé à conscientiser les jeunes pour entrer dans l'armée, pour aller libérer jusqu'à Kinshasa. La population acclamait par peur, comme je vous ai dit, acclamait seulement. Est-ce que toi tu es devant un rebelle, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas seulement accepter ce qu'ils sont en train de dire. Les jeunes ont accepté, mais est-ce que c'est... Ça vient de leur cœur, du fond de leur cœur.
La situation en RDC et à Bukavu, au cœur aussi des discussions au sommet de l'Union africaine qui s'est refermé hier. Les chefs des États de l'organisation réunis à Addis Abeba en Éthiopie n'ont acté ni sanctions ni condamnations explicites à l'égard de Kigali. Peu d'avancées se sont matérialisées du point de vue congolais alors qu'aucun plan de sortie de crise ne semble se dessiner dans cette assemblée très divisée. À l'actualité africaine encore et ce premier signe de vie, un mois après l'enlèvement d'Alassane Souleyman. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le haut fonctionnaire nigérien apparaît le regard hésitant, lisant un message qu'il tient entre ses mains, le tout en regardant une caméra. Le 11 janvier dernier, Alassane Souleyman était enlevé par le JNIM dans le parc national du W au sud du Niger, à la frontière avec le Burkina Faso. À définir une position européenne commune sur les négociations de paix en Ukraine. Voilà le sens de la réunion aujourd'hui d'une dizaine de dirigeants de pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors que Donald Trump, lui, assure qu'il rencontrera très bientôt Vladimir Poutine, l'Europe semble à la traîne dans les initiatives de négociation pour l'Ukraine. Alors ce matin, la Suède fait savoir que l'envoi de soldats de maintien de la paix en Ukraine n'est pas exclu. Stockholm, qui emboîte ainsi le pas à Londres, allié de premier plan de Kiev. Par la voix de son Premier ministre, le Royaume-Uni s'est dit hier prêt à envoyer des soldats en Ukraine si cela était nécessaire. Correspondance à Londres de Sidonie Gaucher.
Qui veut la paix prépare la guerre. Telle pourrait être la devise du Premier ministre Keir Starmer qui annonce que le Royaume-Uni est prêt à jouer un rôle de premier plan dans l'accélération des travaux sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Dans un article paru dans le Télégraphe, il confirme son soutien accru à l'armée ukrainienne, notamment grâce aux 3 milliards de livres sterling, soit 3,6 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Au moins, il explique craindre pour son pays si Poutine attaque à nouveau et se dit prêt à envoyer des troupes sur le terrain si nécessaire. Keir Starmer sera en visite à Paris aujourd'hui pour une réunion de sécurité en urgence afin de déterminer ce que les Européens peuvent faire pour eux-mêmes en conséquence des initiatives du président Trump sur la question de l'Ukraine. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Et sur le front, Moscou annonce ce matin avoir abattu 90 drones et un missile ukrainien. L'Ukraine qui a attaqué un oléoduc reliant la mer Caspienne à la mer Noire via le sud de la Russie. Selon un communiqué de la compagnie exploitante, une importante station de pompage a dû être arrêtée. En Allemagne, les législatives en ligne de mire, dernière ligne droite dans la campagne électorale des législatives. Les Allemands sont donc attendus dans les bureaux de vote dimanche prochain pour mettre fin à une campagne électrique à l'image du débat télévisé inédit d'hier soir. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision allemande, les quatre principaux prétendants à la chancellerie étaient tous réunis pour débattre. Une démarche positive et amicale du gouvernement américain à Taïwan. Le département d'État américain vient de mettre à jour sa fiche d'information concernant l'île et il n'est désormais plus question de l'opposition américaine à l'indépendance taïwanaise. Une phrase en ce sens a été supprimé un changement de ton diplomatique qui suscite l'optimisme à Taïwan. La correspondance de Jules Bois.
En apparence, c'est une simple mise à jour, mais cette nouvelle formulation représente beaucoup pour Taipei. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a d'ailleurs salué officiellement cette évolution, qui serait selon lui le signe d'un partenariat étroit et amical entre Taïwan et les États-Unis. Pour l'île, qui n'est pas considérée comme un pays par la majorité des acteurs de la scène internationale, toute évolution diplomatique en sa faveur est scrutée avec attention. Surtout dans un contexte de tension avec la Chine qui menace de s'emparer du territoire par la force. Si cette mise à jour ne vient pas modifier en profondeur les relations entre Washington et Taipei, les autorités taïwanaises y voient une preuve supplémentaire du soutien de la nouvelle administration Trump à Taïwan. Un soutien d'ailleurs pas toujours aussi amical, puisque depuis quelques mois, Trump menace d'imposer de lourdes taxes sur les semi-conducteurs taïwanais dont il reproche la concurrence avec l'industrie américaine. Une décision qui pourrait abîmer durablement les liens économiques jusqu'ici privilégiés entre Taipei et Washington. Jules Bois, Taipei, RFI.
Aux États-Unis, rien ne semble freiner les ambitions d'Elon Musk en matière d'IA. Le milliardaire proche de Donald Trump doit présenter aujourd'hui la version 3 de Grok, la dernière version donc de l'intelligence artificielle rendue il y a quelques mois disponible gratuitement sur X. La promesse est audacieuse. Musk clame qu'il s'agit de l'intelligence artificielle la plus intelligente donc sur Terre. La suite, c'est avec vous, Caroline Paris.
Merci Simon Bourtembourg.